La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Recréation du monde par la PAC, alors revenons au récit de création d'Adam et Ève. Dans Approche sans entrave, Maritain ose une interprétation des deux récits de création de la Genèse. Et le texte s'intitule « Faisons-lui une aide semblable à lui ». Il me semble très important, dans une année consacrée au corps, chez Maritain, le corps-substance, la critique bergsonienne, qui renvoie dos à dos Bergson et Descartes. Descartes parce que c'est l'étendue, et Bergson parce que c'est la durée, mais c'est dos à dos la même problématique, c'est-à-dire la désubstantialisation. Si l'âme est substantielle au corps, alors on peut comprendre de manière philosophique ces récits de la Genèse à la fois avec un socle commun qui est celui de la définition de l'humanité et à la fois avec une différenciation qui vient proposer une complémentarité d'Adam et Ève, mais cette complémentarité, loin d'être les trois K qu'on a en Allemagne, Küch, Kirsch et Kinder, voilà, la femme dévolue au foyer, à la cuisine, à la religion et l'éducation des enfants. D'ailleurs, ces critères qui sont souvent sociologiques pour distinguer l'homme et la femme, Maritain, lui, propose une ontologie, et une ontologie finalisée, c'est-à-dire articulée sur une théologie et une spiritualité. Et c'est à ce niveau de profondeur qu'il convient d'aller pour répondre un peu aux chaos, à la difficulté de notre société qui n'a plus de repères suffisants et qui a une dérive, c'est de risquer de faire du corps humain une chose que l'on peut négocier, sur laquelle on peut mettre un chiffre, de l'argent. On a déjà énormément de dérives, il reste quand même des lieux inaliénables, hein. On fait un don de sang, on ne va pas payer quand on donne son sang, mais les chirurgies, les demandes de changement de sexe que l'on dit pouvoir être possible avec un traitement hormonal et une petite opération posent cette question de l'inaliénabilité, on va dire, la valeur absolue, totale de l'homme, aussi bien dans sa personne que dans son corps. C'est une question qui mérite fortement d'être posée, puisque les sites pornographiques se multiplient sur les réseaux, que le commerce des enfants, c'est un commerce où on les sort de la misère s'ils acceptent d'être filmés pour faire de l'argent, de l'argent qui va choquer, donc de l'argent pornographique, etc., etc. Donc c'est une question de fond, que le corps humain conçu, appréhendé dans sa différence homme-femme. Alors Maritain a beaucoup d'humour, puisque c'est une œuvre posthume, c'est un humour sérieux, car les questions sont graves, mais le texte que je vous lis, en le commentant à peine tellement il est clair, mérite d'être entendu, médité, relu. Alors c'est le troisième épisode, et Maritain revient sur la sexualité. Quant au pôle charnel, j'ai déjà indiqué que la sexualité crée, pour le mâle et la femelle des animaux, une typicité d'ordre purement fonctionnel. Ce qui n'est nullement le cas pour l'homme et la femme, dont la typicité est d'ordre essentiel ou modal essentiel et ne comporte la fonction génitale que comme une de ses propriétés. Ça n'empêche évidemment pas la sexualité de jouer un rôle des plus considérables dans l'être humain et dans la vie humaine, et d'être la source non seulement des voluptés sensibles naturellement liées à son acte, mais aussi de joies magnifiquement humaines, comme celle de la paternité et de la maternité, et de faire naître toutes sortes de tendances et d'activations précieuses à notre nature, et aussi de frustrations, de complications psychiques et de misères, qui remontant de son corps, affectent toute la personne humaine. Remarquons en outre que la personne humaine étant celle d'un animal doué de raison et l'âme humaine étant individualisée en ordre à un corps déterminé, le sexe et la fonction de génération, avec tout ce qui leur est lié dans le fonctionnement interne de la vie organique, surtout chez la femme, qu'il s'agisse de l'espèce de complicité qui s'établit ainsi entre elle et la nature, ou qu'il s'agisse surtout de la gestation, où l'enfant est dans le sein maternel comme dans un nid naturellement sacré, crée dans l'animalité humaine une sorte de consonance ou de correspondance harmonique avec ce qui, au pôle spirituel et du côté de l'âme et de ses qualités particulières, constitue la personne humaine dans l'être homme ou l'être femme. Il reste que l'idée régnante aujourd'hui et qui, réduisant tout le problème au seul pôle charnel, fait regarder le sexe et la fonction génitale comme le fondement premier d'où dérive et par où s'expliquent tous les autres caractères différentiels qui distinguent l'être homme et l'être femme est, j'espère l'avoir montré, une erreur de base qui vicie toute notre perspective sur l'être humain. Autant expliquer le génie de Mozart par les activités biochimiques de sa rate ou de son foie. Maritain ne manque pas d'humour. Je termine cette trop longue digression en notant que tout ce que j'y ai dit concerne uniquement les membres de l'espèce humaine, personnes à la fois constituées par leur âme et ses qualités particulières dans la masculinité et la féminité, et œuvrant au service de l'espèce par une certaine fonction de la chair. Ça ne se trouve ni dans le monde des esprits purs, où chaque personne angélique est une espèce, ni dans le monde des bêtes, où chaque individu est seulement pour l'espèce et sa propagation. Ici, vous reconnaissez la note thomiste de Maritain. Quand il dit « chaque personne angélique est une espèce », c'est pour cette affirmation que saint Thomas a été condamné par Étienne Tempier. Alors, il y a eu quelques phrases de saint Thomas d'Aquin qui ont été condamnées, dont celle-là, que les anges sont une espèce. Pourquoi ? Parce qu'on était encore sur un schéma de saint Bonaventure. Et la grandeur, le génie de saint Thomas, c'est d'avoir articulé la notion d'acte et de puissance, hein, donc d'essence et d'existence, pour, on va dire, canaliser tout ce qui était force supranaturelle, dont tout ce qui concerne les anges. Et là, c'est un coup de génie, c'est qu'un ange est à lui-même une espèce. Mais ça n'a pas été compris tout de suite, parce qu'on était dans un autre schéma, il a fallu un petit peu de temps. Je vous propose de rester dans le temps pascal avec les chorales de l'Orgelbüchlein de Jean-Sébastien Bach. Le temps pascal est aussi celui de l'esprit. Donc nous nous dirigeons vers la Pentecôte et vers l'esprit dans l'histoire. Et voilà comment Bach écrit le Vien Veni Sanctus Spiritus. Il écrit de manière très intérieure avec cette petite note, tac-tac, tac-tac, ce motif que vous retrouvez aussi dans des cantates et des passions. L'exégèse de Bach vous est proposée très souvent sur Radio Présence. Alors je ne vais pas doublé, mais c'est une grande joie que de lire en détail les partitions ou de les écouter ou de les réentendre parce qu'il s'agit d'un véritable traité théologique. Alors Maritain continue son traité à lui, reprenant maintenant le fil des réflexions de premier jet qui me venaient à l'esprit en lisant la Genèse. Je rappelle qu'avant de commencer ma digression philosophique, j'avais insisté sur la relation de personne à personne entre Adam et Ève, et noté qu'en vertu de la répartition des qualités différentielles proprement humaines que Dieu a données en partage dès leur création à l'homme et à la femme, dans une même nature et dignité humaine, Ève a été créée pour être la compagne et l'inspiratrice de l'homme. Je dis, dans toute leur œuvre, à tous deux, sur la terre. Ève est aussi, je ne l'oublie pas, la mère du genre humain. Mais c'est nous que cela intéresse avant tout, plus que la personne d'Adam, lequel est aussi notre père. Et n'oublions pas non plus que c'est après le péché et à titre de châtiment que dans la Genèse, chapitre 3, verset 16, Dieu dit à Ève, « Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » La domination en question de l'homme sur la femme, qui est tout autre chose, elle ne va pas sans faute d'orgueil de la part de l'homme, que l'autorité dont j'ai parlé dans mes premières remarques, c'était il y a 15 jours, et qui pendant de longs siècles s'est traduite par l'asservissement de la femme, celui-ci continue aujourd'hui sous d'autres formes, et grâce à l'idolâtrie bestiale de la sexualité, qui dépersonnalise la femme et la porte à se tenir elle-même pour une chair destinée au plaisir de l'homme, ce qui de soi est désespérant, et fait que certaines se jettent dans une espèce de prostitution par haine de leur corps, la domination d'asservissement de l'homme sur la femme n'a absolument rien à voir avec la nature propre de l'un et de l'autre. Elle n'a à voir qu'avec les suites du premier péché. Je regrette de devoir ajouter que si saint Thomas n'a pas manqué de condamner l'asservissement de la femme, cependant, l'erreur de base à laquelle je m'attaque, et qui a joué son rôle dans les tentatives de justification de l'asservissement séculaire de la femme, regarder la faculté d'aider l'homme à engendrer comme le seul privilège propre à la femme, et donc le sexe et la fonction de reproduction, comme la caractéristique à laquelle se réduit en dernière analyse toute sa féminité, les anciens et nos plus vénérés docteurs l'ont commise de leur côté, en accord avec la mentalité de leur temps et dans leur perspective à eux, à l'extrême opposé du sexualisme égocentrique de nos distributeurs de drogues philosophiques pseudo-freudiennes. Cela s'accordait du reste parfaitement avec les vues d'Aristote sur la femme comme homme manqué. On trouve ainsi dans leurs interprétations de la Genèse, des assertions plutôt surprenantes, telles que la suivante, à laquelle saint Thomas a fait écho dans un sept contrat de la Prima Pars, question 98, article 2. S'il est dit dans la Genèse que Dieu a fait la femme comme l'aide de l'homme semblable à lui, eh bien, l'aide en question concerne uniquement l'œuvre de la génération et aucune autre œuvre. Car, pour n'importe quelle autre œuvre, l'homme aurait pu être aidé plus convenablement par un autre homme que par la femme. Voir de même, question 92, article 1, où saint Thomas enseigne catégoriquement ce dicendum quod ahurissant. Après tout, n'est-ce pas lui-même se trouver très convenablement aidé dans son couvent par ses secrétaires et par les frères converts? Il n'y a pas un mot dans le texte de la Genèse, pour soutenir une telle assertion, qui méconnaît totalement l'évidente complémentarité du type féminin et du type masculin, et le fait que leurs qualités différentielles sont celles de l'âme spirituelle elle-même, informant le corps selon qu'elle est individualisée dans un sens ou dans l'autre. Saint Thomas s'est du reste gardé de pousser jusqu'à son terme extrême l'assertion qui me scandalise, et il la corrige fortement en notant dans un autre article de la question 92, l'article 2, que l'œuvre de la génération n'est pas la seule à considérer et qu'il y a aussi, pour l'homme et la femme, des œuvres à faire en commun dans la vie domestique. Si toutefois, on poussait les choses jusqu'au bout dans la perspective ouverte par l'idée que l'unique objet en vue duquel Ève a été faite pour compléter l'homme est la procréation, on devrait avec une mâle assurance dont certains bien-pensants de jadis n'étaient pas exempts, ne voir en la femme que la femelle pondeuse qui aide Adam à se reproduire lui-même, sauf ratage accidentel dans l'œuvre de la génération qui font produire une femme au lieu d'un homme. On comprend qu'allant logiquement à l'absurde, quelques pédants du Moyen-Âge, de cet âge où pourtant par ailleurs le culte de la Vierge réhabilitait la femme et où les troubadours exaltaient celle-ci, se soient sérieusement posé la question de savoir si la femme avait une âme spirituelle comme celle de son mari. Après tout, une âme simplement animale n'aurait-elle pas suffisamment fait l'affaire, puisque la femme n'a été créée in tutorium viri, en aide de l'homme, que pour servir à la reproduction. Ces vieilles histoires ne sont bonnes qu'à nous amuser. Mais ce qui porte à des réflexions mélancoliques, c'est l'idée que la noble pensée elle-même du docteur Angélique n'a pas pu réussir dans un domaine comme celui dont nous parlons et où la pression du milieu culturel s'exerce si fortement sur l'esprit qu'elle n'a pas réussi à se délivrer tout à fait du climat, de l'intelligentsia de son époque et des préjugés qui y régnaient. C'est là une des servitudes de notre nature blessée, une servitude à laquelle nul n'échappe complètement. Si un esprit aussi magnifiquement libre que celui de saint Thomas n'y a pas échappé sur ce point particulier qui nous occupe, comment trop s'étonner de voir aujourd'hui une foule d'esprits serviles tenir pour leur premier devoir de s'adapter, et s'ils sont chrétiens et animés de quelques ailes pastorales, d'adapter l'évangile et la foi chrétienne aux exigences inconditionnées d'une culture de masse et d'une mentalité collective, pour laquelle l'amour de la vérité métaphysique ou religieuse est une vieille défroque indigne de l'homme moderne. Il reste que, pour retourner à mon propos originel qui concerne la lecture de la Genèse par un chrétien quelconque en quête d'intelligibilité, il semble spécialement important pour l'esprit de tâcher de faire cette lecture dans une liberté aussi entière que possible à l'égard de tout préjugé, quel qu'il soit, qu'il vienne des humaines traditions des anciens, Jésus n'était pas tendre pour celle des docteurs de la loi, ou de la fatuité intellectuelle de nos chers contemporains. Cette différence de nature entre féminité et masculinité, selon que ces caractéristiques, en celui-ci qui est un homme et celle-ci qui est une femme, affecte la nature humaine tout entière et relève aussi bien et plus profondément de l'ordre psychique et spirituel que de l'ordre corporel, est aujourd'hui de plus en plus méconnu. Hommes et femmes deviennent totalement indiscernables quant aux profondeurs de leur nature individuelle et aux signes qui les manifestent. Et c'est à l'invasion d'une sorte d'hermaphroditisme dans le comportement général et dans l'idée même de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la femme que nous avons maintenant à faire. Une telle perte entraîne à sa suite un abject biologisme-matérialisme, et l'unique prise en considération dans la relation entre homme et femme des fonctions et des besoins de la sexualité. À cette dernière, désormais, tout est absolument ramené. D'où ne peut résulter, pour le monde demain, et pour tout un aspect de ses conditions culturelles, qu'une incontestable dégradation. On peut penser que dans l'Église, et chez les chrétiens, un culte de plus en plus fervent, et de mieux en mieux fondé en théologie, de la Vierge Marie, apportera, à la perte en question, une divine compensation. Pourquoi Jacques Maritain peut-il faire cette lecture de la Genèse? Vous le savez, si vous êtes allé à Kolbsheim, vous voyez la tombe de Raïssa et de Jacques. Raïssa est morte bien avant lui, elle est morte en 1960, et elle est au milieu de la tombe, son nom est au milieu de la pierre tombale, Raïssa, Jacques Maritain, et tout en bas, dans l'angle droit, en bas, est Jacques, en tout petit. Jacques a toujours considéré qu'il devait tout à Raïssa. Eh bien, il se voit aussi beaucoup à Vera et il le reconnaît. Alors pour terminer, je voudrais faire un éclairage autour de Vera. En 1936, Vera, Raïssa et Jacques partent au Brésil et puis en Argentine, plutôt en Argentine d'abord et au Brésil au retour, sur le Florida. Et Vera, devant cet océan splendide, se met à composer le poème suivant. Au-dessus des collines, au-dessus des oiseaux, les soleils invisibles, la douce lueur des terres, d'un éclat phosphorescent, sur l'océan en feu, les ailes blanches et vertes palpitent. Les albatros rapides et fauves laissent tomber les ailerons des requins. Eh bien, ce poème a été apprécié par Michaud, le poète qui était lui-même sur le Florida. C'est vous dire que Jacques, entouré de ses deux femmes, les deux sœurs Oumantsov, a pu avoir une lecture, vous avez compris, spécifique de la Genèse, précisément parce qu'il a peut-être découvert cette différence spirituelle et littéraire et donc intellectuelle au sens très large entre l'homme et la femme.